VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 19h en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 14 mars 2022. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. En République démocratique du Congo, plus de 50 civils ont été tués en deux jours dans des attaques de rebelles ADF présumées contre des villages de l'Ituri. L'armée sénégalaise a lancé une opération pour démanteler les bases des rebelles en Casamance. En Ukraine, les combats s'étendent et le bilan s'alourdit avec des frappes russes à Kiev et ukrainiennes sur Donetsk. La quatrième session de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine se poursuivra mardi. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. En République démocratique du Congo, au moins 52 civils ont été tués dans des attaques de rebelles ADF présumées contre des villages de la province de l'Ituri. Selon des sources locales, 19 personnes ont été tuées dimanche dans 4 villages du territoire d'Irumu. Selon Christophe Mounianderou, coordonnateur de l'ONG locale CRDH, ce lundi, les villages Apende et Ndimo ont aussi été la cible d'attaques des ADF qui ont tué 33 personnes. 33 civils. Selon M. Mounianderou, il n'y aurait pas eu autant de victimes si toutes les alertes de la population étaient prises en considération. Tous les villages attaqués sont situés dans la chefferie de Walese Wankutu, une zone enclavée à la frontière avec le Nord Kivu. L'armée sénégalaise a annoncé avoir lancé la nuit dernière une opération contre les rebelles en Casamance. Cette offensive survient moins de deux mois après la mort de 4 soldats et la capture de 7 autres dans la zone frontalière avec la Gambie. Le point avec Mohamed Oumfa.
Dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation des personnes et des biens, les armées ont lancé le dimanche 13 mars 2022 une opération dont l'objectif principal est de démanteler les bases de la faction MFDC, Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance de Salif Sadio, situé le long de la frontière avec la Gambie, a indiqué l'état-major sénégalais dans un communiqué. Cette opération vise également à détruire toutes les bandes armées menant des activités criminelles dans la zone. Les armées restent déterminées à préserver à tout prix l'intégrité du territoire national, ajoute le communiqué. En Gambie voisine, des populations ont été affectées par les détonations d'armes lourdes et d'obus tombés. Plusieurs personnes déplacées et des réfugiés venant de la frontière sénégalaise ont commencé à arriver dans des villages de Gambie, affirme le gouvernement gambien dans un communiqué. Le président gambien Adama Barrow assure que son pays ne servira de base arrière à quiconque et n'autorise à personne à y entrer avec ses armes et munitions. Il appelle à une solution pacifique du conflit en Casamance.
Au Burkina Faso, la junte est à son tour confrontée à la violence djihadiste après une série d'attaques meurtrières depuis sa prise de pouvoir en janvier. 23 civils et 13 gendarmes sont morts dans 4 attaques en quelques jours dans la région de Dori, l'une des principales villes du nord-est du pays. C'est le plus lourd bilan depuis l'arrivée au pouvoir du colonel Paul-Henri Damiba qui a renversé le 24 janvier le président Roch Marc-Christian Kabore. Au Soudan, les forces de sécurité ont tiré des grenades lacrymogènes pour disperser des milliers de personnes qui manifestaient à Khartoum et dans d'autres villes contre le pouvoir militaire et l'inflation. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
À Damazine, à 800 km de Khartoum, face à des milliers de manifestants, dont beaucoup de lycéens, les forces de sécurité ont tiré des grenades lacrymogènes. Des grenades lacrymogènes ont également plu à Niala, au Darfour, affirme notre témoin. Là aussi, des milliers de lycéens et d'habitants scandaient pas d'éducation dans ces conditions désastreuses et non au pouvoir militaire. Des milliers d'anti-putsch ont aussi défilé à Atbara, à 250 km de Khartoum, où des cheminots ont entamé samedi dernier une grève illimitée. La situation est devenue insupportable, nous ne sommes plus payés depuis deux mois, explique l'un d'eux, Ahmad Bachir. Les manifestants dénoncent la répression et la mainmise des militaires sur la politique et l'économie du pays. Selon l'ONU, un tiers des 45 millions d'habitants du Soudan ont besoin d'une aide humanitaire et doivent composer avec une inflation dépassant chaque mois les 300%. Depuis le putsch du chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, la répression a fait 87 morts et des centaines de blessés, selon des médecins pro-démocratie.
Au Maroc, 67 personnes, dont des mineurs, sont toujours détenues ce lundi au lendemain des violences lors d'un match de la Coupe du Maroc de football à Rabat. À la suite de l'enquête en cours, la police judiciaire de Rabat, sur ordre du parquet, a placé 50 adultes en garde à vue et 17 mineurs en rétention au terme des dispositions propres à l'enfance, indique une source sécuritaire.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au 19e jour de l'invasion russe en Ukraine, Kiev a été la cible de plusieurs frappes. Des obus ont été aussi largués dans les régions de Soumy et Tcherniv. À Mariupol, les organisations humanitaires appellent à venir au secours de la population. Les détails avec Nanit Talani.
Les forces russes continuent d'encercler la capitale Kiev. Plusieurs explosions y ont été entendues, rapportent les journalistes du Kiev Independent. Un bombardement a touché l'usine aéronautique d'Antonov et un immeuble résidentiel, faisant des morts et des blessés. La centrale nucléaire de Tchernobyl est de nouveau coupée du réseau électrique. L'Ukraine accuse la Russie d'en être responsable. La situation se dégrade également dans l'ouest ukrainien, région jusqu'à présent épargnée par les combats. Une base militaire a été bombardée par des missiles hier à Yavoriv, près de la frontière polonaise. Médecins sans frontières décrit une situation quasi désespérée à Mariupol, dans le sud-est du pays. Cette ville portuaire assiégée et bombardée est privée d'électricité et de gaz depuis plusieurs jours. Les produits de première nécessité comme l'eau et la nourriture restent très difficiles à trouver. Selon le maire, plus de 2000 habitants ont été tués et des centaines de milliers tentent de quitter la ville malgré les attaques russes. Pour la première fois depuis le début du siège de Mariupol, quelques 160 voitures ont pu sortir ce lundi via un couloir humanitaire vers Zaporijjia. 11 couloirs humanitaires devraient être ouverts aujourd'hui, selon une parlementaire ukrainienne. La Croix-Rouge exhorte à trouver un accord le plus vite possible et se dit prête à agir comme intermédiaire neutre pour faciliter le dialogue entre parties sur les questions humanitaires.
Près de 150 000 personnes ont pu quitter des régions bombardées grâce à des couloirs humanitaires depuis le début de la guerre, ont indiqué ce lundi les autorités ukrainiennes. Plus de 2,8 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début du conflit le 24 février, selon l'ONU qui a recensé environ 2 millions de déplacés à l'intérieur du pays. Quatrième session de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie ce lundi. Les discussions se poursuivront demain. Celles-ci donnent lieu à des négociations difficiles, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le point avec Rosine Mounezero.
Une visioconférence entre les délégations ukrainiennes et russes a déjà débuté aujourd'hui. Elle se poursuit. Tout le monde attend des nouvelles. Nous ferons un retour dans la soirée, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Nous devons tenir bon et nous battre pour gagner, pour parvenir à une paix que les Ukrainiens méritent, une paix honnête avec des garanties de sécurité pour notre État, pour notre peuple, et pour les mettre par écrit lors de négociations, de difficiles négociations, a-t-il ajouté. Il s'agit de la quatrième séance de pourparlers entre Mykhailo Podolyak, l'un des négociateurs du président ukrainien, et son homologue russe Vladimir Medinsky, conseiller du Kremlin. Les trois précédentes sessions s'étaient tenues aux frontières ukraino-bélarusse et polono-bélarusse. Plus tôt lundi, l'Ukraine avait affirmé qu'elle exigerait une nouvelle fois une trêve immédiate dans les combats et le retrait des forces russes, près de trois semaines après le début de l'invasion lancée par Vladimir Poutine le 24 février.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, se rendra demain à Moscou après un arrêt soudain des discussions sur le dossier nucléaire lié à de nouvelles exigences russes. Le 5 mars, Moscou, frappé par des sanctions liées à l'invasion de l'Ukraine, a demandé aux Américains la garantie que ces mesures n'affecteraient pas sa coopération économique avec l'Iran. Des revendications jugées hors sujet par le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, stoppant net les discussions à Vienne qui visent à sauver l'accord de 2015. Par ailleurs, l'Iran a averti qu'il ne tolérera pas les menaces venant de l'Irak au lendemain d'une attaque de missiles revendiquée par les gardiens de la révolution iranien contre une cible au Kurdistan irakien. Dimanche, l'armée idéologique de l'Iran a affirmé avoir visé un centre stratégique appartenant à Israël situé à Erbil. Les autorités kurdes avaient, elles, indiqué que 12 missiles balistiques tirés hors des frontières de l'Irak avaient visé le consulat américain à Erbil sans faire de victimes. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'économie, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Mohamedou Oumfa.
Le Soudan subit de plein fouet l'impact de la hausse des prix des céréales et du pétrole due à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dimanche, le prix du pain est passé de 35 à 50 livres soudanaises, soit de 5 à 7 centimes d'euros. Le coût des transports a augmenté de 50%. Le pays de 45 millions d'habitants, dont un tiers ont besoin d'une aide humanitaire selon l'ONU, doit déjà composer avec une inflation dépassant chaque mois les 300%. La Guinée veut avoir son mot à dire dans le développement de l'immense gisement de fer de Simandou et à long terme faire entendre sa voix sur le prix du fer ou de la bauxite sur les marchés, a affirmé le chef du gouvernement jeudi dernier. Le chef de la junte au pouvoir, le colonel Mamadi Doumbouya, a ordonné la cessation de toute activité à Simandou, un des plus vastes gisements de fer au monde. L'exploitation est entravée depuis des années par des litiges sur les droits miniers, les soupçons de corruption et l'ampleur des investissements à réaliser dans une région enclavée et un pays cruellement dépourvu d'infrastructures. Le régulateur sud-africain de l'aviation civile a annoncé dimanche la suspension pour une durée indéterminée de la compagnie aérienne Comair, franchise de British Airways, pour des raisons de sécurité. Plusieurs vols de l'opérateur sud-africain ont connu des pannes ces derniers mois, allant de dysfonctionnement de moteur à des problèmes de train d'atterrissage. La compagnie a déclaré poursuivre les démarches pour obtenir la levée de la suspension.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La phase de poule de la conférence Sahara de la Basketball Africa League prend fin demain. En dehors des Tunisiens de l'Union Sportive Monastir, sûrs de se qualifier pour la phase finale prévue fin mai à Kigali au Rwanda, les 5 autres clubs de cette conférence sont toujours en lice pour les 3 places qualificatives restantes. 2 matchs ce soir. Rwanda Energy Group affronte l'orgue tunisien de l'US Monastir. Juste après, les Marocains de l'AS Salé joueront Seydou Legacy Athletic Club de la Guinée. Basketball toujours, mais cette fois-ci ici en NBA, avec 53 points, 6 rebonds et 9 passes décisives. Kevin Durant a guidé les Brooklyn Nets à la victoire face aux New York Knicks, battu 110-107. Dallas s'est imposé à Boston 95-92, gâchant quelque peu la fête du retrait du maillot de l'ancien All-Star, champion NBA en 2008 avec les Celtics, Kevin Garnett. Le choc entre les Los Angeles Lakers et Phoenix a tourné en faveur des Suns, vainqueur 140-111 de LeBron James et de ses coéquipiers. Seule maigre consolation pour la superstar des Lakers, il est devenu le premier joueur de l'histoire de la NBA à compiler 30 000 points, 10 000 rebonds et 10 000 passes décisives en carrière. Memphis a battu Oklahoma City 125-118. À noter parmi les autres rencontres de la soirée d'hier, la victoire en prolongation de Philadelphie 116-114 à Orlando avec le Camerounais Joel Embiid, auteur de 35 points et 16 rebonds. Football sur le continent, la Ligue des champions était à sa 4e journée de la phase de poule le week-end écoulé. L'on connaît les premiers qualifiés pour les quarts de finale. Il s'agit notamment des Mamelodi Sundowns, vainqueurs 1-0 des Égyptiens dans la Ligue du Caire. Dans le groupe A, pareil pour Petro Luanda dans le groupe D, vainqueur 3-0 dans le derby face à Sagrada Esperanza. Le Wydad de Casablanca est aussi qualifié pour les quarts grâce à sa victoire 1-0 contre le Zamalek du Caire. Coup d'arrêt en revanche pour le Raja Casablanca. Après avoir aligné 4 victoires d'affilée, les Marocains ont été battus 2-1 à Conakry par le Oroya. L'entente de Sétif a battu 2-0 les Sud-Africains d'Amazulu Dans la poule C, l'Espérance de Tunis a gagné 2-0 l'étoile du Sahel et les Algériens du CRB Louizdad ont corrigé 4-0 les Botswanais de Galaxy. Quatrième journée également des matchs de poule en Coupe CAF, Pyramide FC d'Égypte domine toujours le groupe A malgré son nul 1-1 à Sfax. Son dauphin Al Ahly Tripoli s'est imposé sur la pelouse des Zambiens de Zanaco 3-2. Le TP Mazembe, accroché 2-2 au Cameroun par le Coton Sport de Garoua, cède la première place du groupe C aux Égyptiens d'Al-Masri qui ont assuré l'essentiel devant les Congolais de l'AS Otoho de Yo. Dans le groupe D, ce sont les Tanzaniens de Simba, vainqueurs 1-0, des Marocains de la Renaissance Sportive Berkane qui gardent la tête avec un point d'avance sur les Ivoiriens de la SEC d'Abidjan qui ont battu les Nigériens de l'US Gendarmerie Nationale 2-1.
Merci beaucoup Yakuba pour cette page sportive. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. L'armée sénégalaise a lancé une opération contre les rebelles de Casamance, moins de 2 mois après la mort de 4 soldats. 7 militaires capturés par des éléments du mouvement des forces démocratiques de Casamance avaient été libérés le mois dernier grâce à une médiation de l'organisation catholique italienne Sant'Egidio. Pour un point sur ce conflit de 40 ans, Abdourahmane Dia a joint à Ziguinchor Ndeymari Diédoutiam, présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance.
Une surprise, pas tout à fait, parce que on s'y attendait tout de même. On s'attendait à ce regain de violence, ce qui a fait que ces derniers temps, nous avons fait un plaidoyer pour que les deux parties en conflit, c'est-à-dire l'État du Sénégal et le mouvement des forces démocratiques de Casamance, se mettent autour d'une table pour négocier. Cette période d'accalmie est la période la meilleure. C'est pendant cette accalmie, c'est la période favorable pour aller vers des négociations.
Vous décrivez un peu une situation assez difficile pour les populations civiles qui sont les premières victimes de cette instabilité dans une certaine partie de la Casamance. Que vous disent ces populations quand elles fuient les zones où se déroulent ces combats?
Les dernières enquêtes que nous avions menées, les dernières informations que nous avions eues lors des événements qui sont passés, c'est que les populations sont parties avec rien. Elles sont allées vers des familles d'accueil. Et ces familles d'accueil sont dans des situations d'extrême pauvreté. Donc c'est partout pareil. Et les populations veulent la paix. Les populations veulent être tranquilles. C'est ça le cri de cœur des populations. Elles veulent être chez elles. Elles veulent vivre en paix. Et donc nous restons et nous croyons fermement que la seule solution, ce sont les négociations, c'est le dialogue. Pour retrouver la paix et la tranquillité pour ces populations.
On avait quand même constaté une période d'accalmie ces dernières années. Pourquoi ce conflit persiste-t-il alors que beaucoup d'activités avaient commencé à reprendre, d'après certains, même dans les zones les plus reculées de la Casamance?
En effet, les populations commençaient à retourner dans leur terroir. Les activités ont repris. Les populations ont commandé des enseignements sur le tournage que l'on croyait ne plus être accessible. Donc ce regain de violence-là nous retourne encore à des années en arrière. Les populations vivent avec la peur dans le ventre et ça ne peut pas continuer. Il est temps qu'on prenne ce problème à bras le corps et négocier. Le processus de paix doit en prendre un coup, c'est certain. Le processus doit en prendre un coup. Si on a gagné cette accalmie-là, si on a pu obtenir cette accalmie pendant toutes ces années-là, c'est que les organisations de la société civile sont encore sur le terrain et encore en train de faire un travail de sensibilisation, et particulièrement les organisations de femmes. Donc il est temps qu'on arrive à des négociations avec l'implication de toutes les parties, de toutes les franges du MEPC, mais également avec les organisations de la société civile.
Ndeymari Diédou, présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, était jointe à Ziguinchor dans le sud du Sénégal. Le pré-dialogue entre le pouvoir militaire et les groupes rebelles au Tchad, ouvert hier à Doha, a été suspendu peu après le début des travaux. Les participants se sont donné 3 jours pour accorder leur violon. Ces assises sont censées permettre la participation de tous les groupes rebelles tchadiens au dialogue national inclusif prévu à N'Djamena en mai. Nani Talani a joint N'Djamena, Benissitak Yombatina, vice-président des transformateurs et l'un des porte-parole de la coalition Wakitama.
Quelques groupes de protocoles militaires qui est arrivé là-bas sans agenda. Ça, c'est le premier élément. Je pense qu'il a irrité un peu certaines personnes. Deuxièmement, ils sont retrouvés avec plus de 52 protocoles militaires, alors que au départ, c'était pas ça. Et donc, aujourd'hui, on sait maintenant qu'il y a certains protocoles militaires qui ont été fabriqués. C'est des citoyens, c'est des civils, c'est des exilés qui sont devenus, n'est-ce pas, du jour au lendemain des protocoles militaires. Et donc, tout ça, je pense, a également irrité, n'est-ce pas, les vrais mouvements que nous connaissons, qui ne sont pas très nombreux. Et puis, troisièmement, au niveau de la préparation, vous vous souvenez, c'était l'ancien président de la République Ukniwede, qui était lui-même un ancien maquisard, un politico militaire qui connaît bien l'espace politico militaire et qui a une expérience dans ces questions-là, qui a été débarqué à la veille, pas remplacé par le ministère de la réconciliation et du dialogue, mais plutôt par des gens qui n'avaient rien à voir avec tout ça, qui n'avaient aucune expérience. Donc je pense ça également. Hein? Les politico militaires ne sont pas très contents avec ça.
Et qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Là, il y a des tractations dans les coulisses. Alors de deux choses l'une, soit ceux qui sont sérieux et qui ont envie vraiment qu'on aboutisse à un accord pour pouvoir sortir le Tchad de cette honte aujourd'hui, parce que moi j'appelle ça une honte, un pays qui a 62, 63 ans et qui a passé les 112 ans dans la 62, 63 ans dans la guerre, dans les rébellions, et qui continue encore au XXe siècle à offrir, n'est-ce pas, des spectacles désolants comme ça à l'étranger, soit disant qu'ils font du dialogue, alors que le dialogue, c'est quelque chose de permanent. Et on continue à donner ces spectacles désolants. Donc ceux qui sont sérieux décident, n'est-ce pas, d'exiger qu'on puisse renvoyer certains mouvements qu'on a fabriqués de toutes pièces, et à ce moment-là, on accède et on passe à des choses sérieuses, à l'ordre du jour, ou soit ceux qui sont partis d'ici avec une intention justement de rallier les autres, parce que finalement, vous savez, à la veille, on a changé même le comité technique spécial qui était le comité de pré-dialogue, réconciliation nationale, à un CTS de négociation. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils négocient là-bas, alors qu'on n'est pas parti pour négocier. On est allé pour inviter les gens à venir, le vrai dialogue, la vraie négociation, c'est ici à N'Djamena. Donc, soit ceux qui sont allés accompagner les autres, on les fait rentrer et le vrai dialogue s'organise, et ceux-là restent, ou soit ils déconnent, ils s'en vont, et puis bon, ce qui va se passer, c'est que soit on achète le reste et on leur fait signer des choses, et puis on fait croire à tout le monde qu'on a eu un dialogue. Ça va être les achats des consciences, comme on a l'habitude de le faire, ou alors on fait un vrai dialogue et à ce moment-là, on le fait avec les vrais groupes politico-militaires qui sont vraiment des groupes politico-militaires qui inquiètent et qui sont à la base de la situation que nous connaissons aujourd'hui au Tchad. Mais si on veut faire, n'est-ce pas, du remplissage comme le gouvernement est en train de le faire actuellement, on risque, n'est-ce pas, d'arriver à des conclusions bâclées qui, finalement, nous n'avancerons pas les travaux de 10 mains.
Votre coalition politique est-elle représentée à Doha?
Non, on n'y est pas présenté. Alors, écoutez, madame, là aussi, on a choisi la société civile qu'on voulait. On a envoyé là-bas une société civile acquise à la solde, n'est-ce pas, du CMT. On a choisi, il paraît, les quelques partis politiques, parce que même dans la salle, ils ont dit, mais c'est une réunion politique ou bien c'est une réunion des militaires. Là aussi, on ne sait pas quels sont les partis politiques qui sont partis là-bas. On apprend seulement qu'il y a quelques partis politiques qui sont partis là-bas. Il y a la société civile qui est là-bas. Il y a des individus qui, au nom de quoi, on ne sait même pas, qu'on a invité là-bas. Et on a laissé les gens, justement, qui pourraient apporter leur expertise dans ce dialogue-là. Donc là aussi, ça nous montre une fois de plus encore que là encore, le CMT pêche, le CMT avec son gouvernement, sont dans de mauvaises voies. Et je pense qu'ils n'ont pas envie, justement, qu'on ait un vrai dialogue, qu'on ait un dialogue sincère, un dialogue utile, un dialogue qui va nous sortir vraiment, n'est-ce pas, de ce bourbier dans lequel nous sommes plongés et que, justement, nous remettons le pays, n'est-ce pas, sur les rails.
Benissitak Yombatina est vice-président des transformateurs et membre de la coalition Wakitama.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Bénin, le monde de la transformation agroalimentaire se développe à un rythme soutenu, notamment avec l'engagement de nombreuses femmes déterminées à offrir le meilleur aux consommateurs. Parmi ces businesswomen, Euphrasie Dasundo Asogba, PDG de Agro Express, spécialisée dans la transformation de légumes frais en purée, qui ambitionne de commercialiser ses produits sur le continent et au-delà. Son portrait par Ginette Fleuradandé, notre correspondante à Cotonou.
Depuis près d'une dizaine d'années, Euphrasie Dasundo Asogba met sur le marché béninois et étranger des produits frais transformés en purée pour les ménages et les restaurants. Partie avec moins de 50 000 francs CFA, elle se retrouve aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui prospère et qui apporte chaque jour des améliorations pour le bonheur des consommateurs.
Mon entreprise a démarré avec 30 000 francs. en 2013 où je transformais essentiellement des tomates. Quoique j'arrivais à transformer 6 ou 8 paniers de tomates par jour. Mais aujourd'hui, notre unité a la possibilité de transformer 1 tonne de tomates par jour.
Avec plus de 150 employés, Agro Express offre aujourd'hui une porte de sortie aux agriculteurs dans la réduction de façon significative des pertes de récolte en raison de la mévente et autres difficultés. Elle permet également aux produits locaux que sont la tomate, le piment, l'oignon et différentes sortes d'épices cultivées au Bénin de se retrouver sur divers marchés internationaux. Si aujourd'hui elle est devenue une entrepreneuse prospère et joue un rôle déterminant dans l'avenir de l'horticulture au Bénin, elle a dû affronter de nombreuses difficultés.
En termes d'entrepreneuriat, les débuts sont toujours compliqués. Pas mal d'obstacles, surtout par exemple pour l'écoulement des produits. Faire accepter le produit aux clients, les gens ne s'y intéressaient pas vraiment. Donc il a fallu beaucoup de persévérance pour arriver au niveau auquel nous sommes aujourd'hui. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le soutien de la famille, de surtout mon mari et de quelques parents proches que je ne cite pas forcément, qui m'ont aidé à tenir réellement le coup.
À un âge relativement jeune, elle contribue de façon significative à la sécurité alimentaire et au développement économique local. Aujourd'hui, Frasida Sundo Asoba met ses connaissances au service des jeunes entrepreneurs qui désirent évoluer dans la transformation agroalimentaire.
J'ai commencé par me faire former dans la transformation proprement dite. Ensuite, j'ai suivi beaucoup de séances de coaching en entrepreneuriat, en gestion d'entreprise, gestion du personnel, ce qui m'a permis aujourd'hui d'être réellement polyvalent dans ce que je fais. Ça ne veut pas dire que je ne délègue pas des tâches. Je peux dire toi fais ci, toi fais ça, mais c'est pas parce que je ne sais pas le faire que je dis aux gens de le faire. En dehors de ça, ces formations m'ont permis aujourd'hui de devenir formateur. Depuis 3 ans, l'État sollicite notre entreprise pour des formations dans le sens de la reconversion des jeunes.
Grâce à son engagement, Frasida Sundo Asoba a acquis une réputation nationale et ses produits se retrouvent sur toutes les grandes surfaces et sont connus de tous. Elle a également encouragé de nombreuses femmes à se lancer dans le secteur de la transformation encore très masculin. De Cotonou, Zinette Loa Dandé pour VOA Afrique.
La guerre menée par la Russie en Ukraine entre dans sa 3e semaine. Les forces russes ont bombardé ce week-end une base militaire ukrainienne près de la Pologne. L'attaque a poussé le président ukrainien Volodymyr Zelensky à réclamer encore une fois une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays. Une demande maintes fois rejetée par les Occidentaux. Le point avec Arash Arabassadi de la Voix de l'Amérique, le récit de Jacques Aristide.
C'est la base militaire de Yavoriv qui a été frappée par l'armée de l'air russe. La ville ukrainienne est située près de la frontière avec la Pologne, pays membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Avant l'invasion russe de l'Ukraine, des manœuvres militaires conjointes entre les troupes ukrainiennes et celles de l'OTAN ont eu lieu à Yavoriv. Kiev se dit désormais préoccupé par l'éventuel recours de Moscou aux armes chimiques et biologiques. Dans le programme This Week d'ABC, Andriy Moskalenko, l'adjointe au maire de la ville de Lviv, a déclaré que le président russe Vladimir Poutine pourrait même déployer des armes nucléaires.
Ils ont bombardé des hôpitaux pour enfants. Ils peuvent tout faire. Le monde entier doit s'engager afin de voir comment résoudre ce conflit.
La Maison-Blanche se dit également inquiète d'une possible utilisation par la Russie d'armes biologiques et chimiques en Ukraine. Jake Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale, en a parlé hier dans l'émission State of the Union de CNN.
C'est une inquiétude tout à fait légitime, la peur que la Russie utilise des armes chimiques en Ukraine. Ils accusent les États-Unis et les Ukrainiens d'utiliser potentiellement des armes chimiques ou biologiques, ce qui est en fait révélateur de leurs intentions. Ce sont eux qui se préparent peut-être à le faire. Ils vont ensuite rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. C'est classique dans le modus operandi russe.
À Kiev, les habitants qui n'ont pas fui la capitale se réveillent au son des sirènes d'alerte et des coups de feu alors que les forces russes vraisemblablement resserrent l'étau autour de la ville. Hormis les dons envoyés à l'Ukraine par des gens des quatre coins du globe, nombre de personnes ont décidé d'aider le pays autrement en se rendant sur place, notamment pour se battre aux côtés des troupes ukrainiennes. L'Américain Dwight Crow est l'un de ses volontaires. Il a accordé une interview exclusive à Sky News.
Après avoir vu ce qui se passait, j'ai réservé un vol depuis la Californie et je suis venu ici aussi vite que possible. Si ce n'est pas le combat de la démocratie et de la liberté contre l'autocratie de notre génération, je ne sais pas ce que c'est.
Les forces de l'ordre de la région de Kiev affirment recueillir des preuves qui montreraient que des militaires russes ont tué des civils. Des preuves qu'elles comptent soumettre plus tard à la Cour pénale internationale de la Haye. Le Kremlin nie avoir pris pour cible des civils.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Georges Léonard Sagnot. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.